Voilà, chers amis, nous allons prendre un extrait très court du livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3. Ecclésiaste, chapitre 3. Un passage assez connu. Chapitre 3, au verset 7, dans ce temps pour tout, il est dit qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Et au verset 11, il est ajouté « Dieu fait toutes choses belles en son temps. » Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Puis dans notre épître de Jacques, nous allons remettre en évidence quelques expressions. Dans Jacques 1, donc vers la fin du Nouveau Testament, Jacques chapitre 1er, verset 26, « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Au chapitre 3, donc, nous avons lu dans ces 12 premiers versets hier soir, je relève au verset 2, nous bronchons, nous trébuchons, tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Un peu plus loin dans les versets 7 et 8, toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Donc c'est vrai, le thème d'hier soir de notre introduction, c'était ce fameux verset, Proverbe 18-21, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » Nous avons évoqué l'importance de la langue et nous avons évoqué ensuite l'eau douce et l'eau amère qui, hélas, trop souvent sortent de la même source. Nous voulons nous arrêter cet après-midi sur cette petite pépite d'Ecclésiaste 3:7. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler, que qu'Alfred Kuhn a transcrit par ces mots, Dieu décide quand il faut garder le silence et quand vient le moment de parler. Bon, il y aurait beaucoup à dire, nous dirons peu de choses par rapport à tout ce qui pourrait être développé. J'ai relevé cette petite anecdote qu'on attribue, certains l'attribuent à un orateur romain célèbre, d'autres à Socrate. Il s'agit d'un jeune homme qui vient donc demander à ce célèbre orateur de lui enseigner l'art de parler en public. Et le jeune homme se lance dans un flou incohérent, difficile à canaliser, et l'orateur célèbre ne savait pas comment placer un mot, et puis ils en arrivent au point où l'on discute du tarif pour les leçons données par ce célèbre orateur. Et l'orateur de lui dire: jeune homme, pour vous instruire dans l'art oratoire, je vais devoir vous demander un double tarif. Alors, l'autre est un peu surpris et il lui demande de justifier cette attitude. Eh bien, tout simplement parce que je devrais vous enseigner deux aptitudes. La première, à tenir votre langue, et la seconde, à l'utiliser. Tenir sa langue et savoir l'utiliser. J'ai aussi été touché par cette petite histoire d'un homme qui est invité chez des amis pour dîner. Le repas est délicieux, sauf la tarte aux pommes. Ce n'est pas qu'elle ait été mauvaise, mais elle n'était pas à la hauteur du reste du repas. Et l'invité de trouver quand même le moyen de dire de bonnes choses au sujet de la tarte. Et puis un peu plus tard, il rend de nouveau visite à ses mêmes amis qui l'invitent pour le dîner. Et à cette occasion, le repas est couronné par une tarte aux cerises qui était absolument délicieuse. Et le visiteur, de ne rien du tout dire au sujet du repas, de la tarte, si bien que l'hôtesse est quand même un peu vexée à quelque part, parce qu'elle s'est vraiment défoncée, dépassée, et finalement, pardon, elle lui dit: « Mais je ne vous comprends pas. La dernière fois que vous êtes venu, je vous ai servi une tarte dont j'avais honte, et vous m'avez cependant fait des compliments. Ce soir, je vous ai servi la meilleure tarte que j'ai jamais faite, et vous ne m'avez pas dit un seul mot. » Et l'homme de répondre avec un sourire: « Mais laissez-moi vous expliquer, je suis bien d'accord avec vous. La tarte aux cerises que vous nous avez servie était vraiment fantastique. Et la tarte aux pommes que vous aviez servie la dernière fois était loin d'être aussi bonne que celle-ci. Mais voyez-vous, c'est celle-là, la première, qui avait besoin d'éloges. » Savoir se taire, savoir parler, savoir encourager quand il le faut, c'est tout un art. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Une des maladies de la langue, puisque on a appelé la langue le miroir des maladies, c'est que nous parlons généralement trop. C'est vrai que certaines personnes n'ont pas ce problème, dans ce sens qu'elles sont souvent muettes comme des pierres tombales. Mais, disons-le, généralement, il y a une sorte d'inflation, de gaspillage du langage, comme si les mots avaient peu de valeur. Il est facile d'être verbeux, de parler pour ne rien dire. C'est un journaliste qui racontait ceci. J'ai un vieil ami qui fut sénateur des États-Unis au temps du président Truman et de plusieurs de ses successeurs. Devant les discours verbeux de maints politiciens, il avait une formule bien à lui. Quand on lui demandait « qu'a-t-il dit ?», il répondait invariablement « il n'a rien dit ». Il a parlé. Proverbe 10, 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres, celui qui met un frein à ses lèvres, Ainsi transcrira Alfred Kuhn, qui exerce un contrôle, qui mesure son débit, et ça ne se fait pas tout seul, celui-là est un homme prudent. Dans le Proverbe 17, versets 27 et 28, il est dit « Celui qui retient ses paroles connaît la science, celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent, l'insensé même, quand il se tait, passe pour sage, celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Et vous savez que dans l'histoire de Job, le seul moment où les compagnons de Job avaient droit à une médaille, c'est quand ils se sont tus. Si seulement vous aviez continué à vous taire, n'est-ce pas, leur dira plus tard notre ami Job. Et ça a été un drame, n'est-ce pas, la prise de parole de ces conseillers de Job a finalement été absolument dramatique pour lui. Proverbe 13:3, celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte, ou celui qui ouvre trop souvent les lèvres, ainsi transcrira aussi Alfred Kuhn. Quelqu'un d'ailleurs a dit sous forme de boutade, la bouche est ce qu'on ouvre le plus souvent par erreur. La bouche est ce qu'on ouvre le plus souvent par erreur. Vous avez ce psaume 141, verset 3, qui est intéressant comme prière éternelle. « Mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Donc il y a une porte qui doit être ouverte et fermée au bon moment. Il faut veiller à ce qui sort par la porte, par notre bouche. J'ai relevé dans un excellent livre sur le tabernacle cette pensée. Le croyant ne doit pas ressembler à un haut-parleur. Ses appareils ne font que du bruit. Et c'est pour cela qu'on les place loin l'un de l'autre, toujours solitaires. Le croyant haut-parleur finit de même par s'isoler des autres. On continue dans cette veine des proverbes, proverbes 12-18, « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Et là encore, Alfred Kuhn transcrit, « Il y a des gens qui bavardent sans réfléchir. Leurs paroles blessent comme des coups d'épée. » Proverbe 29-20, « Il y a plus à espérer d'un sot que d'un homme qui parle sans réfléchir. » Encore dans le livre de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste 5-2, « La voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Pensée reprise au chapitre 10 et au verset 14. Et puis nous l'avons lu hier soir dans Jacques 1:19, « Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. » C'est Épictète qui, au deuxième siècle, écrira « Dieu, la divinité, a donné à l'homme deux oreilles, mais une seule bouche, pour qu'il puisse entendre deux fois plus qu'il ne parle. » Deux oreilles, une seule bouche. Même Confucius le dira, « L'homme parfait parle peu. » J'ai relevé ces derniers jours un proverbe russe intéressant, « Le sage a de longues oreilles, de grands yeux et une petite langue. » Et cette prière haïtienne qui est très intéressante, « Seigneur, aide-nous à ne pas trop parler. » Parce que trop parler, c'est comme conduire trop vite. Parfois, les freins ne sont pas bons et l'on dépasse l'endroit où l'on voulait s'arrêter. Quand nous parlons trop, nous dépassons la vérité et nous mentons. Et nous savons aussi que parler trop nous fait dérailler. Nous sortons des rails de la vie. Alors, j'ai relevé cette expérience riche en enseignements d'une mère de famille qui eut un jour de graves problèmes de gorge. Et le médecin de lui prescrire un médicament, mais de lui dire aussi que ses cordes vocales avaient besoin d'un repos total. Elle ne devait pas parler pendant 6 mois. Alors, elle était mère de 6 enfants, et cela lui semblait donc absolument impossible. Et pourtant, elle prit la décision de coopérer. Et donc, elle décida, entre autres, par exemple, d'appeler les enfants en se servant d'un sifflet. Ses instructions devinrent des petites notes. Elle répondait aux questions sur des blocs de papier qu'elle avait placés un peu partout dans la maison. Et les 6 mois passèrent, elle se rétablit et elle fit donc ses premiers commentaires quand sa voix recommença à résonner. Et elle signala, par exemple, que les enfants étaient devenus plus calmes. Elle dit ceci: je pense que je ne crierai plus jamais après eux comme j'avais l'habitude de le faire. Vous seriez également surpris de savoir combien de paroles écrites à la hâte j'ai chiffonnées et jetées dans le panier avant que personne ne puisse les lire. Le fait de voir mes paroles avant que quelqu'un n'ait pu les entendre a produit sur moi un effet que je n'oublierai jamais. Jacques le reconnaît: par nature, nous ne sommes pas maîtres de notre langue. Nous subissons des pressions intérieures terribles au niveau de son utilisation. Et trop souvent, c'est la langue qui règne en maître. Satan sait combien la langue est utile et efficace pour faire régner les ténèbres. Ses dégâts sont terribles et hélas, ils sont souvent irréversibles. Et non seulement nous pouvons faire un mal terrible autour de nous, mais nous nous détruisons nous-mêmes. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Il y a dans le livre des Proverbes plusieurs passages à cet égard, on va peut-être les prendre parce qu'ils sont éloquents. Dans Proverbes chapitre 13, verset 3, Proverbes 13, verset 3, celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Chapitre 14, verset 3 encore. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. Chapitre 20, verset 17. Chapitre 20, verset 17. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Chapitre 21, verset 23, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Et cela peut éventuellement nous rappeler toutes les nuits blanches qu'il nous est arrivé de passer, tout simplement parce que nous nous sommes rendus compte de la mauvaise utilisation de notre langue. D'où l'importance d'une force intérieure pour maîtriser la langue. Et c'est là qu'intervient Galates 5, 22, Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, au verset 19 et suivant, vous avez les œuvres de la chair, celle qui découle de source de notre être naturel, dans lesquelles la langue a sa place, ne fût-ce qu'au niveau des rivalités, des querelles, des jalousies, des animosités, des disputes, des divisions. La langue, nous l'avons vu, divise, crée des rivalités, des querelles entre les hommes. Et puis au verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, qui est une bonté appliquée pratiquement, la foi ou la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, qui est indiquée en dernier, non qu'elle soit secondaire, bien au contraire, elle figure à cette place parce qu'elle est véritablement la clé de voûte du caractère d'un disciple de Jésus-Christ qui est rempli du Saint-Esprit. La force intérieure, littéralement, le fruit de l'Esprit, c'est la force intérieure. Le croyant adulte est comme le timonier d'un bateau. En contrôlant le gouvernail, il dirige par lui tout le bateau de sa vie. Il est comme le cavalier qui, par la bride, contrôle le mort et par lui le cheval. Et c'est frappant, n'est-ce pas, dans cet épître de Jacques, de voir la place qu'occupe la maîtrise de soi. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Dans le psaume 39, toujours dans la même veine, psaume 39, nous sommes en présence de David dans son grand combat pour rester maître de sa langue. Psaume 39, psaume de David. Je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux. Et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Et finalement, la parole est venue sur ma langue. Et donc j'ai interrogé l'Éternel. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Ce combat de David qui a mis un frein à sa bouche, qui avait peur de pécher par sa langue. Et là, nous pourrions prendre quantité d'autres textes. Nous venons de prendre le psaume 39. Si nous allons au psaume 38, aussi un psaume de David, dans les versets 12 à 16, « Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie. Mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour des tromperies. » Réaction de David. « Et moi, je suis comme un sourd. Je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. » Et puis ce verset 16, qui dans le texte original figure deux fois, c'est une de ces nombreuses répétitions dans l'Ancien Testament qui n'ont pas toujours été reprises dans nos versions pour ne pas alourdir le texte, mais en réalité c'est une répétition. Tout simplement parce que dans la pensée de Dieu, c'est le verset clé dans l'esprit de David. C'est ce qui permet précisément à David de maîtriser sa langue éternelle C'est en toi que j'espère. Tu répondras. Je me tais parce que je te fais confiance pour que tu répondes à ma place. Tu répondras, Seigneur, mon Dieu. Et nous pourrions ainsi continuer à prendre d'autres textes, par exemple ce texte profondément émouvant des Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, dans cette complainte funèbre, impressionnante, chapitre 3, versets 19 et suivants, mais il faut déjà lire la première partie, n'est-ce pas ? À partir du verset premier, cet homme de Dieu qui a une bonne quarantaine d'années d'un ministère extrêmement difficile derrière lui, qui a énormément souffert, incompris, isolé. Nous avons vu hier soir les complots qui ont été organisés contre lui, y compris dans son village à Anatote. Tuons-le avec la langue. À diverses reprises, il a échappé à la mort de très très près. Et il voit maintenant, au bout de 40 ans de ministère, les prophéties que Dieu a mises sur ses lèvres s'accomplir sous ses yeux. Et cette cité de Jérusalem, cette capitale et son temple être réduits à néant. Et c'est un paysage d'horrible désolation qui se présente à ses yeux. Il l'explique, il le décrit dans ses chapitres. Et verset premier, on peut lire déjà, « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. » Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc. Il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. J'ai dit ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Voyez un peu le désarroi de ce prophète passé à la moulinette, hein. Ça a dû être terrible, surtout qu'il voyait en même temps, il avait sous les yeux le spectacle des atrocités qui étaient en train, qui venaient de se commettre avec ce siège de Jérusalem par les armées babyloniennes. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés, la grâce, la miséricorde, la loyauté, la fidélité, un terme extrêmement riche. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et alors vous avez subitement cette parole qui rejoint notre thème. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Le refus de s'abandonner au désespoir absolu, à la révolte dans une situation de souffrance, combien de fois ? n'avons-nous pas glissé vers des mots que nous avons regrettés quand nous ne comprenions plus rien à cause du chaos qui était là autour de nous dans notre marche avec Dieu? Voilà encore un exemple éloquent. Si nous allons dans le texte d'Exode 14, dans le cadre du passage de la mer Rouge, Exode 14, versets 13 et 14, alors qu'Israël est coincé dans l'impasse entre la mer et l'armée égyptienne qui est sûre de son coup. Exode 14, versets 13 et 14. Moïse répondit au peuple : ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Gardez le silence. Dans les situations d'impossibilité où vous êtes tenté de vous affoler, qu'il n'y ait pas de murmure. Et vous savez que ça a été tout le problème du peuple d'Israël. Dieu a accepté ces murmures tant qu'Israël n'avait pas eu ses grands rendez-vous avec lui au pied du Sinaï, tant qu'il n'avait pas reçu sa loi, tant qu'il n'y avait pas eu une pédagogie qui s'était appliquée de très près à la vie de ce peuple. Mais alors ensuite, que de drames avec les murmures qui se sont succédés au-delà du Sinaï. Ésaïe 36, 21, autre situation. Ésaïe 36, 21, Sanchérib, roi d'Assyrie, fait le siège de Jérusalem, et il y a là tout un lavage de cerveau par un des adjoints, certainement le grand chef de l'armée, Rabshaké, à partir du verset 13, qui essaye de décontenancer, de désolidariser le peuple, de lui faire perdre confiance dans le roi Ézéchias. Et quand il a terminé sa tirade, au verset 21 d'Ésaïe 36, je trouve ça si beau, mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre: vous ne lui répondrez pas. Pas de riposte, pas de dialogue avec la puissance des ténèbres. Ensuite, vous avez ce magnifique psaume 37, un des psaumes certainement les plus aimés de par le monde, psaume 37, dans les versets 7 et 8, psaume 37, versets 7 et 8, « Ne t'irrite pas », c'est ainsi d'ailleurs que le psaume commence, « Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » En quelque sorte, tiens-toi dans le silence, même devant les apparentes injustices de la vie, même devant l'impunité présente et le bonheur apparent du méchant. Et puis encore, dans le prophète Habacuc, donc un des tout derniers livres de l'Ancien Testament, Habacuc, chapitre 3, Habacuc qui était bouillonnant de toutes sortes de questions parce qu'il ne comprenait pas l'attitude de Dieu vis-à-vis de son propre peuple qui était en train de se corrompre à un degré inimaginable. Dieu a répondu. La réponse que Dieu a donnée dépassait encore la pensée d'Habacuc. Comment était-il possible que Dieu ait prévu de châtier Jérusalem en utilisant quelqu'un qui était encore pire qu'Israël, c'est-à-dire les Chaldéens, les Babyloniens? C'était quelque chose d'absolument incompréhensible. Alors Dieu va préciser les choses avec cette pensée forte qui a été à la base du message de la Réforme au chapitre 2, verset 4. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Et puis, suivent toute une succession de 5 malheurs, aussi bien à l'endroit de l'envahisseur babylonien qu'à l'endroit de tout juif qui, à Jérusalem, n'est pas fidèle au Seigneur. Et puis, le chapitre 3 commence avec cette vision terrifiante du Dieu qui vient pour juger. Il y a là une annonce du jugement de Dieu avec toutes sortes de manifestations terriblement impressionnantes. Et puis à partir du verset 16, la réaction du prophète Habacuc. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Ça, ce sont tous les refus de réaction liés à la peur, liés à ce qu'on attend, dont on sait par les Écritures que cela va se produire. Et nous sommes dans cette situation aujourd'hui où nous avons aussi un Dieu qui vient de tes mains, un Dieu qui a annoncé qu'il allait intervenir d'une manière suprême et définitive dans l'histoire des hommes et que ce seraient des moments extrêmement douloureux. Et là encore, nous disons en silence, je dois attendre le jour de la détresse. Mais quand même, il y a ce verset 18 où je peux ouvrir mes lèvres, mais non pas avec le langage des réactions liées à la peur, mais le langage de la volonté de la foi. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Voyez, toutes sortes de silences. Il y a un temps pour se taire, un temps pour parler, une manière de se taire, une manière de parler. Nous avons vu le silence dans les situations incompréhensibles, les situations difficiles, injustes, angoissantes, inquiétantes. Un silence qui se fonde sur le caractère de Dieu, qui s'appuie sur le fait que Dieu est juste, qu'il est puissant, qu'il est parfaitement digne de confiance, qu'il sait intervenir au juste moment, qu'il est aussi celui qui sait se taire et qui sait parler. Parce que quand il est dit qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler, nous en avons des démonstrations impressionnantes dans la personne de Dieu, dans l'attitude de Dieu, comme nous allons le voir même dans la personne de Jésus-Christ. J'ai sous les yeux les conseils donnés par un vieux serviteur. Quand il y a de l'orage dans l'air, restez tranquille. Quand la calomnie se met en route, restez tranquille. Si on vous a blessé dans vos sentiments, restez tranquille. Du moins, jusqu'à ce que vous vous remettiez de votre agitation. Les choses semblent toujours différentes quand on les regarde avec les yeux de la grâce. Dans un état de colère et d'agitation, j'ai écrit un jour une lettre. Après coup, j'aurais bien aimé ne pas l'avoir envoyée. Au cours des années, et grâce aux épreuves qui ont affiné mon âme et ennobli mon caractère, j'ai appris certaines leçons dont j'avais absolument besoin. Plus tard, j'ai connu une autre période de tension émotionnelle. J'ai écrit encore une fois une longue lettre, mais cette fois-là, je l'ai laissée dans ma poche. J'ai été extrêmement content d'avoir agi ainsi. De jour en jour, le message semblait de moins en moins nécessaire. Je ne savais pas si la personne allait être blessée par ma lettre, mais dans le doute, j'ai plutôt opté pour le silence. J'ai finalement détruit la lettre. Le temps accomplit souvent des miracles. Attendez jusqu'à ce que vous puissiez parler avec calme, et vous n'aurez peut-être pas besoin de parler. N'oubliez pas que le silence est la chose la plus lourde que l'on puisse imaginer. C'est la puissance manifestée avec grandeur. Savoir utiliser le silence. C'est vrai que nous aurions pu passer toute notre soirée à évoquer les silences coupables, parce qu'il est aussi des silences coupables. Mais nous devons aussi apprendre à utiliser cette arme de Dieu, qui est le silence, qui est un signe de confiance en lui, parce qu'on le connaît, parce qu'on a une relation personnelle vivante avec lui. Quelqu'un écrit une insulte, c'est comme de la boue. On peut l'enlever beaucoup plus facilement lorsqu'elle est sèche. Et c'est le silence qui permet à l'insulte de sécher. La calomnie est un vice curieux. Tenter de le tuer le fait vivre. Le laisser tranquille le fait périr de mort naturelle. C'est la parole d'un homme politique américain, essentiellement du XVIIIe siècle. Alors ici, j'aimerais que nous prenions simplement encore un court moment pour nous pencher sur l'exemple du Seigneur Jésus. L'exemple de Christ, qui nous a laissé un témoignage merveilleux d'une langue totalement dominée par le Saint-Esprit, puisque nous parlons du fruit de l'Esprit. Et ce qui est certainement le plus impressionnant, ce sont les silences de Jésus. Les silences de Jésus dans les circonstances les plus épouvantables. Et dans le cinquième évangile, dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 53, vous le savez, à deux reprises, c'est intéressant, à deux reprises, et dans la stylistique de la langue de l'hébreu, déjà à deux reprises, souligne dans cette répétition l'importance du message que Dieu voulait laisser. Ésaïe chapitre 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Alors, nous allons voir quelques textes qui évoquent ceci dans Matthieu 26, Matthieu 26, versets 59 à 63, Matthieu 26, 59 à 63. Les principaux sacrificateurs, je suis donc dans Matthieu 26, 59, et tout le Sanhédrin cherchait quelques faux témoignages contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Vous voyez la langue, là. Hein? Enfin, il en vint deux qui dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Là encore, voyez le processus de la calomnie, comment on prend une parole de Jésus et puis on la transforme. Puisque Jésus n'a jamais dit « je puis détruire », non, « détruisez le temple ». Et il parlait du temple de son corps. Et pourtant, c'est cette pensée-là, telle qu'elle, qui a été reprise dans plusieurs textes ensuite et qui a finalement abouti à la condamnation d'Étienne. C'est exactement la même calomnie qui ensuite a été reprise à deux fois, dans les mêmes termes, n'est-ce pas? Et le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ? Jésus garda le silence. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Jésus garda le silence. Si vous allez au chapitre 27, dans les versets 12 à 14, devant Pilate, « Mais il ne répondit rien. » aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Si nous allons dans Luc 23, versets 8 et 9, il y a encore une précision intéressante, Luc 23, versets 8 et 9, il s'agit maintenant d'Hérode. Nous avons vu Caïphe, nous avons vu Pilate, le Sanhédrin, maintenant Hérode. Lorsqu'Hérode, Luc 23, 9, vit Jésus, il en eut une grande joie. Car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Et vous savez que tout ceci a été repris dans la première épître de Pierre, au chapitre 2. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injurié ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez errants comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Jésus n'a pas dit, c'est abracadabrantesque. Et ça, c'est un rude défi pour le disciple de Jésus-Christ. Le silence de l'agneau face à l'injustice, face à ses propos mal cités. Il n'y a rien qui fasse démanger plus notre envie de parler que quand on vous cite de travers. Ah, ça vous démange. Face aux propos déformés, le refus de faire valoir ses droits. Alors, toujours dans l'exemple de Christ, il y a l'incapacité des pharisiens à prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Il y a là aussi de très beaux textes, Luc 11, versets 53-54. Luc 11, 53-54. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment, à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Et en fait, ils n'ont pas réussi. Puisque même quand on a cherché des témoins, on n'a pas trouvé de témoins, on a finalement trouvé des faux témoins. Ces faux témoins ne convenaient même pas, n'est-ce pas ? Ceux qui accusaient étaient très embarrassés. On n'a pas réussi. Vous avez Luc 20, versets 20 à 26. Luc 20, versets 20 à 26. Ils se mirent à épier, à surveiller Jésus. Et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles, afin de le livrer au magistrat à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement. Tu parles et enseignes droitement. Que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Et Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, « Montrez-moi un denier. » De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent rien reprendre dans ces paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, alors c'est eux qui ont gardé le silence, à leur tour. Et puis, nous pourrions passer du temps à évoquer le souci permanent du Seigneur Jésus de parler pour transmettre uniquement le message du Père. Ça, c'est un des grands thèmes de l'Évangile selon Jean. Je vais juste prendre un ou deux passages. Jean 7, versets 16 et 17. Jean 7, versets 16 et 17. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Chapitre 8, verset 28. Chapitre 8, verset 28. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que moi, je suis. Il y a sans doute une allusion au grand texte de l'Ancien Testament sur la divinité de Jésus-Christ, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné, n'est-ce pas ? Je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Puis chapitre 12, versets 49 à 50, Jean 12, 49 et 50, « Je n'ai point parlé de moi-même. » Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je les dis comme le Père me les a dites. Ce souci permanent du Seigneur Jésus d'être vraiment l'interprète fidèle, exact, précis de la pensée de Dieu, des paroles du Père. Et chaque fois que je lis ces passages, et il y en a d'autres encore dans, un peu plus loin au chapitre 14 par exemple, je pense au rôle de l'interprète. Et quand vous êtes interprété dans une autre langue, ça m'arrive chaque année un certain nombre de fois, et j'ai vécu toutes sortes d'expériences plus ou moins cocasses ou gênantes dans ce domaine. C'est tout un art, n'est-ce pas, d'être, d'une part, de parler avec un interprète, et puis d'autre part, d'être un bon interprète. Parce qu'on peut, déformer, quand on connaît bien, on peut même précéder l'autre, pensant qu'on peut aller dans une direction, parce qu'il semble qu'il aille dans cette direction. Il m'est arrivé à plusieurs reprises, avec des amis qui m'accompagnaient très souvent, notamment en Grande-Bretagne, de devoir dire à un moment donné, non, tu vas trop vite, je n'en suis pas encore là. C'est un peu gênant. Il m'est même arrivé une fois quelque chose de très intéressant, dans une école biblique au Pays de Galles. J'étais en train de parler de la prière pour les morts, du culte des morts, etc., en disant ce que la Bible dit à ce sujet. Et c'est mon interprète, qui était une étudiante de l'école, qui s'est arrêtée subitement de traduire, qui m'a regardé droit dans les yeux, qui m'a dit « Comment ? C'est vrai ? Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ça ?» Elle était d'origine anglicane, mais elle n'était pas encore au clair sur cette question. Et en pleine réunion, reprise à quelque part, j'ai dû lui dire « Écoutez, si vous voulez bien continuer à m'interpréter, on aura un entretien, si vous voulez, après ça. » Enfin, je pourrais en raconter bien d'autres. C'est tout un art, n'est-ce pas ? Il faut vraiment qu'il y ait une sorte d'osmose. On fait corps l'un avec l'autre et l'interprète doit faire attention. Ce n'est pas du mot à mot servile, n'est-ce pas ? Mais il faut absolument que la pensée puisse être rendue avec la même finesse que celui qui va dans telle ou telle direction. Nous pourrions évoquer l'étonnement de ceux qui écoutaient Jésus parler et enseigner. Ces hommes envoyés pour arrêter Jésus et qui reviennent vers les chefs bredouilles, mais bouleversés, et qui disent dans Jean 7, 46, « Mais jamais homme n'a parlé comme cet homme !» Ils ont été subjugués
par la beauté, la richesse, la profondeur, sans doute la limpidité, la cohérence du message de Jésus-Christ, tellement différent de l'enseignement cacophonique venant de la part des rabbins, des différentes écoles rabbiniques qui se contredisaient, qui s'attaquaient réciproquement, etc., n'est-ce pas ? Le peuple en avait marre de cette manière d'être enseigné dans toutes sortes de directions, sans plus savoir exactement dans quelle direction aller. Et voilà Jésus qui arrive avec un message tellement beau. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. Psaume 45, verset 3, passage prophétique. Jésus connaissait une plénitude du Saint-Esprit parfaite. Le péché n'avait pas la moindre place en lui, il était totalement uni au Père. Et le résultat, c'est que sa langue était totalement dominée, maîtrisée, porteuse de vie. C'est bien Simon-Pierre qui lui dira, « Mais Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et là, nous aurions pu ouvrir toute une longue parenthèse sur précisément la parole de Dieu, le logos de Dieu. Vous savez qu'il y a deux mots dans le Nouveau Testament qui sont utilisés pour évoquer la parole. Vous avez le logos de Dieu, qui est l'équivalent d'un terme hébreu, qui, dans l'Ancien Testament, le davar de Dieu, et qui donne cette idée extrêmement riche qui a totalement disparu du concept occidental de la parole. La parole est à la fois pensée, parole exprimée et action. C'est cette totalité, le logos de Dieu, c'est une pensée cohérente de Dieu qui s'inscrit aussi dans le temps, dans la continuité, qui se traduit par une parole, mais cette parole est active, elle produit des effets, elle se traduit en action. Ça, c'est le logos. Vous avez ailleurs le terme « rhéma » qui est davantage simplement la parole exprimée, la parole audible, la parole des messagers. C'est un mot qui revient à diverses reprises dans le Nouveau Testament. La parole chargée d'une puissance explosive qui représente un potentiel d'énergie qui a force de vie. Une parole vivante qui a le pouvoir de rendre vivant. Alors vous avez des textes extraordinaires. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle est là. Psaume 33, verset 9. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec rapidité. Psaume 147, verset 15 et suivant. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Cette parole chez le Seigneur Jésus, tous les miracles de guérison accomplis sur un mot, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Ésaïe 55, 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, sans avoir accompli mes desseins. Il est même dit, vous le savez, que le monde entier, le cosmos tout entier est soutenu par la parole de Christ. C'est le début de l'Épître aux Hébreux qui nous dit le Christ pourrait d'un instant à l'autre cesser de soutenir le cosmos tout entier de sa parole puissante. C'est extraordinaire quand on y pense. Parole porteuse de vie, mais parole qui peut être porteuse de mort, n'est-ce pas ? Psaume Apocalypse 1, 16, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, question de la seconde venue de Christ. Psaume 18, verset 9, un feu dévorant sortait de sa bouche. Psaume 46, 7, il fait entendre sa voix et la terre se fond d'épouvante. Osée 6, 5, je les tuerai par les paroles de ma bouche. Matthieu 21, 19, Jésus parle au figuier stérile et celui-ci sèche à l'instant. Parole de vie, parole de mort aussi. En ce qui concerne notre Dieu. Voilà ce qui m'amène simplement en conclusion à souligner le fait que le langage d'un homme révèle sa spiritualité. Ses paroles révèlent son caractère. La langue est le baromètre de l'âme, le tableau de bord, le tableau de contrôle du caractère et de la vie spirituelle. Le secret d'un langage juste se trouve dans un cœur purifié, dans un cœur sanctifié et rempli du Saint-Esprit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, dit le Seigneur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, Proverbe 16, verset 23. Et là, c'est intéressant parce que, en parlant du fait d'être rempli du Saint-Esprit pour que le fruit de l'Esprit se développe, nous avons le contexte d'Éphésiens 5, 18. Hein, ne vous enivrez pas de vin, c'est du dérèglement. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et c'est intéressant de voir que dans le contexte de ce fait d'être rempli du Saint-Esprit, la langue occupe une place énorme. Prépondérante, n'est-ce pas, au chapitre 4 d'Éphésiens, verset 25. Très pratique. C'est pourquoi renoncez au mensonge, ou débarrassez-vous, ou débarrassez du mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Et dans la liste des manifestations concrètes de ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit, c'est la première. Débarrasser du mensonge. Et nous l'avons dit dans le temps que nous avons passé dans le groupe de jeunes cet après-midi, il y a des engagements à prendre dans sa jeunesse quand on est disciple de Jésus-Christ, notamment au niveau du mensonge et de la vérité. Parce que nous sommes dans un monde où le sport, certainement le plus pratiqué, c'est le mensonge. Et notre société est entrée dans un état de décomposition terrifiante, mais le mensonge y occupe une place absolument gigantesque. J'ai d'ailleurs toute une étude sur la vérité et le mensonge, mais on essaye de choisir aussi dans le cadre de ce week-end. Versets 29 et 30. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole pourrie. » On va en reparler demain. C'est le week-end dernier où j'avais une série en Belgique que quelqu'un est venu après une réunion pour me poser des questions. Et il a introduit ces questions au moins avec deux mots grossiers. Au point simplement que gentiment je lui dis « Mais qu'est-ce que vous voulez dire en utilisant ces deux mots ?» Et c'est une habitude de plus en plus répandue dans l'Église de Jésus-Christ. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole, littéralement pourrie. Hein. Le mot utilisé ici donne cette dimension-là. Mais s'il y a lieu, selon le besoin, devrions-nous traduire, selon le besoin, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et ça continue. Bon, n'attristez pas le Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit, il ne faut pas l'attrister. Si on l'attriste, il faut venir au Seigneur, il faut régler le problème tout de suite. Et là aussi, souvent nous tardons, et parce que nous tardons, eh bien les problèmes s'aggravent. Que toute amertume, verset 31, toute animosité, toute colère, toute clameur, c'est-à-dire tous les éclats de voix, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Chapitre 5 encore, verset 4. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques. Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Voyez la place importante de la langue dans notre état de santé spirituelle. Notre langue doit être déposée sur l'autel, elle doit être consacrée au Seigneur. comme tout le reste du corps. C'est Romains 12, 1 et 2. Nous aurions pu faire cette étude de Romains 12, 1, puisque c'est la base, n'est-ce pas? Lorsque Paul exhorte, encourage les croyants de l'Église de Jésus-Christ à Rome, « Je vous exhorte donc, je vous encourage donc, par les compassions de Dieu, à cause de l'amour extraordinaire de Dieu pour vous, tel qu'il va le déployer dans son écriture de Romains 1 à 8 en particulier, par les compassions de Dieu, à cause de l'amour de Dieu pour vous, je vous exhorte à offrir vos corps, la totalité de votre personne, dans tous ses membres, tout ce qui s'exprime, tout ce qui se voit, tout ce qui est concret, offrez-le en sacrifice vivant. Donc pas demain, parce que demain je serai peut-être mort. Sacrifice vivant, ça ne peut être qu'aujourd'hui et maintenant. En sacrifice saint, c'est-à-dire mis à part pour Dieu, séparé du péché, puisque mon corps, ma personne, est le sanctuaire du Saint-Esprit, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable est littéralement un culte logique. C'est le mot grec logique. Conforme à ce que la raison demande. Ou encore logique dans un sens un peu particulier, un culte non formel, non extérieur. Un culte qui part du cœur pour se traduire dans le corps. Dans les Écritures, on part du cœur, on va vers le corps. Dans le système diabolique, on part du corps en essayant d'atteindre le cœur. Alors dans la sexualité, on voit ce que ça donne. Ça ne marche pas. Et puis ensuite, l'apôtre Paul continue avec le verset 2, qui est étroitement lié au verset 1er. Il y a même une petite conjonction de coordination qui a souvent été supprimée du texte français pour ne pas rendre la phrase trop longue. Mais il y a un petit « et ». « Et soyez continuellement sous-entendu, c'est la manière de conjuguer, soyez continuellement métamorphosé par le renouvellement permanent de votre mentalité, afin que vous soyez en quelque sorte rendu capable d'apprécier, de tester, d'évaluer, de reconnaître la volonté de Dieu, laquelle, au regard de Dieu d'abord, avant que ce soit au nôtre, est bonne, agréable, parfaite. Donc mettez tous vos membres sur l'autel. Mais n'oubliez pas de mettre la tête d'abord. Ça c'est le verset 2. Les membres, oui. Mais il faut que la mentalité soit mise en tout premier lieu, parce que tout notre comportement, nos attitudes, nos paroles, nos actes dépendent de ce qui se passe dans le domaine de nos pensées. Dans l'Holocauste, chez les Juifs, il fallait tout mettre sur l'autel. Et les textes du début du Lévitique précisent qu'il ne fallait surtout pas oublier de mettre la tête. Même la tête devait être mise sur l'autel. Donc mettez la tête pour que vos pensées puisse être contrôlé par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse maîtriser déjà le domaine de vos pensées. Or, nous sommes dans un monde aujourd'hui, vous le savez, où les fantasmes doivent avoir libre cours. Il faut qu'on puisse penser ce qu'on a envie, il ne faut surtout pas se braquer dans ce domaine, c'est très mauvais, paraît-il. Alors, on a le droit d'imaginer les scènes les plus odieuses, les plus épouvantables, les plus révoltantes, les plus dégoûtantes, etc. C'est notre petite affaire, c'est notre petite cuisine. Après tout, ça n'ennuie pas les autres, paraît-il, ce qui est complètement faux. Parce que ce qui travaille là-dedans, ça va sortir par là et ça va s'exprimer dans notre comportement, n'est-ce pas? Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus de problèmes dans le domaine des mœurs dans l'Église de Jésus-Christ. Ça part là-dedans. Ça continue là. Et puis un jour, on découvre aussi que ça s'est traduit dans le plus concret du comportement. Et il y a de temps en temps des grosses grenades qui explosent dans l'Église de Jésus-Christ, parce que dans la tête, les choses n'ont pas été réglées. Je le redis, notre langue doit être déposée sur l'autel avec le reste, consacrée au Seigneur, comme tout le reste du corps. J'ai relevé, et je terminerai avec ça, cette belle prière d'Oswald Smith, l'auteur, entre autres, de ce livre « La passion des âmes », qui était pasteur évangéliste à Toronto, qui a un ministère remarquable, et qui a prié ceci: « Seigneur, fais de moi un homme selon ton cœur. Voici mes mains, je te les consacre. Puissent-elles ne jamais toucher quelque chose que tu ne veux pas, ni faire quoi que ce soit qui te déshonore. Voici mes pieds, je te les donne. Qu'ils puissent ne jamais aller où tu n'es pas vu. Voici mes yeux, qu'ils ne regardent jamais quelque chose qui attristerait le Saint-Esprit. Voici mes oreilles, qu'elles n'écoutent rien qui fasse honte à ton nom. Que ma bouche ne s'ouvre jamais pour une parole que tu ne veux pas entendre. Que ma mémoire ne retienne jamais une pensée ou une image qui trouble la conscience de ta présence. Que mon cœur ne connaisse pas d'autre amour ni d'autres sentiments que ceux qui viennent de toi. » Souvenons-nous que Dieu entend. Dieu entend. Malachie 3,16, l'Éternel fut attentif. Il écouta, c'étaient les paroles des justes qui souffraient dans une période de terrible décadence de ce peuple d'Israël à l'époque de Malachie. L'Éternel fut attentif, il écouta. Dieu entend. Psaume 139, verset 4, « La parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Et j'ai relevé cette histoire, et je terminerai avec elle, racontée par André Adoul, où elle date d'une trentaine d'années au moins. Il écrit « Nous recevions à la maison une parente qui venait à Paris pour la première fois. Nous étions heureux de l'accueillir car elle avait une foule de choses intéressantes à nous raconter. Au cours de la soirée, alors que nous avions avec elle une conversation des plus animées, l'un de mes enfants eut l'idée, sans nous prévenir, d'installer et de mettre en route son magnétophone pour enregistrer notre entretien. Au moment de se séparer, il insista pour que nous restions un instant de plus. Ce fut presque un drame lorsque notre visiteuse entendit ses propos et réalisa qu'elle avait longuement et contre son habitude critiqué les siens, les voisins, etc. « Mais, dit-elle, c'est moi qui parle ainsi? Est-ce possible? Promettez-moi d'effacer cette bande. » Elle ne riait plus. Dieu entend. Vous savez qu'il existe en Angleterre, dans la cathédrale Saint-Paul, une galerie toute particulière, la galerie des murmures, qui fait que quand on se place à certains endroits de cette galerie, on peut être entendu très loin, même si on est simplement en train de murmurer. Et un jour, deux jeunes gens étaient là dans cette galerie et ils ont voulu se moquer du guide qui était en train de donner des explications. Donc ils se sont mis à imiter son accent, à se moquer de lui, en chuchotant entre eux dans un coin, jusqu'à ce qu'il soit vertement repris par le gardien qui leur a fait comprendre qu'il avait, parce que c'était la galerie des murmures, absolument tout compris de ce qu'ils étaient en train de dire derrière son dos. Il y a un temps pour se taire, un temps pour parler. Il y a dans la parole puissance de vie et dans cette même parole puissance de mort. Que notre langue et tout notre corps, toute notre personne soit vraiment sur l'autel. Soit peut-être remis sur l'autel. Quand il est dit « offrez vos corps », la particularité du temps qui est utilisé dans la langue grecque, c'est que c'est ce qu'on appelle un aoriste, un temps qui n'existe pas dans la langue française. Mais cela veut dire offrez vos corps une fois pour toutes. Les 36 verbes qui suivent ce verbe-là sont tous au présent qui, en grec, est le temps de la continuité, de l'action qui se renouvelle et qui se prolonge, de l'habitude de faire ou de ne pas faire, mais pas celui-ci. Offrez vos corps une fois pour toutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous offrons nos membres, quand nous les mettons sur l'autel, nous le faisons sans calcul. Nous ne sommes pas de ceux qui disent « Seigneur, prends le contrôle total de ma vie jusqu'aux vacances de Noël. Parce qu'aux vacances de Noël, j'ai l'intention d'aller dans tel pays, c'est un rêve que je caresse depuis 10 ans, et j'irai quoi qu'il m'en coûte. » Nous pouvons avoir une consécration conditionnelle qui vise des moments ultérieurs. Notre cœur est tellement tortueux, où nous reprendrons notre liberté. Dieu veut une consécration inconditionnelle. Seigneur, je me donne à toi sans calcul. Je n'ai pas ma petite stratégie en disant « Seigneur, je me donne à toi à fond, parce qu'aujourd'hui c'est très important, parce que j'ai envie de réussir mes examens, et je sais que si je ne me donne pas à toi, je vais peut-être les rater, donc je fais un échange. » Vous comprenez ? Pas de calcul. Pas de calcul. Ce qui ne nous empêche pas, lorsque nous avons conscience devant Dieu, d'avoir repris en quelque sorte notre consécration, d'avoir redonné libre cours à une liberté non contrôlée par le Seigneur, à l'un ou l'autre des membres de notre corps, de refaire le pas, de dire « Seigneur, j'ai repris ce que je t'avais donné, sincèrement, droitement, sans arrière-pensée, sans calcul, Seigneur, je veux tout remettre à nouveau sur l'autel, et je te demande de me garder. Alors je mets ma langue aussi sur l'autel. » Nous voulons prier. Ô Seigneur, nous avons surtout sondé ta parole, lu tous ces passages tellement forts. Merci pour le portrait de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour l'usage de sa langue, son souci permanent d'être complètement sous ton contrôle, son refus d'une indépendance dans le message par rapport à toi. Merci pour son silence. Là où il aurait pu se défendre avec éloquence. Merci parce que ton Fils bien-aimé n'a pas ouvert la bouche. Il a été comme une brebis muette pour mon salut, pour que je sois sauvé, pour que nous soyons sauvés. Merci pour cette plénitude absolue du Saint-Esprit dans la vie de ton Fils bien-aimé. Merci aussi pour ces quelques exemples de tes enfants, de tes serviteurs, de tes servantes dans l'Ancien Testament, qui avaient beaucoup moins de lumière que nous, et qui pourtant avaient à cœur de savoir se taire dans des situations difficiles en comptant sur ta personne, sur ton caractère, sur ta fidélité, alors qu'ils vivaient des moments tellement difficiles. Seigneur, visite-nous, passe dans nos cœurs, pour que, si tu nous le dis par le Saint-Esprit, nous puissions te confesser ce qui attriste ton esprit, ce qui te peine, et que nous puissions connaître avec le pardon cette restauration et ce rééquipement tellement nécessaire pour notre vie de chaque instant. Nous voulons, Seigneur, tout mettre sur l'autel et peser ce que cela signifie, ne pas le dire avec légèreté. Rencontre-nous, chacun, selon nos besoins particuliers, avec ce message. Merci d'entendre, d'écouter notre prière et de l'exaucer. Nous te bénissons pour ton amour. Amen.